La voix des jeunes.
Développer notre esprit critique et notre regard sur la société.
Favoriser notre capacité à communiquer efficacement.
À nous exprimer.
Mais aussi à écouter.
Comprendre les médias.
Prendre confiance en soi. Apprendre à gérer notre stress et nos émotions.
Partager nos opinions.
Savoir collaborer.
Tout en nous affirmant.
La voix des jeunes.
Le programme radiophonique d'Info RC.
Radio associative en milieu scolaire.
Ils ne sont que 2% en France à fabriquer entièrement leur chocolat de la fève à la tablette. À la Bégude, Morgane Quinonero fait partie de ces artisans chocolatiers torréfacteurs passionnés et engagés. À travers un savoir-faire artisanal, local et responsable, ils réinventent le chocolat avec exigence, authenticité et beaucoup de gourmandise. Les élèves de Mine de Son, la web radio de la cité scolaire de l'Argentière, sont allés à sa rencontre pour découvrir son parcours, son métier et les secrets de fabrication de son chocolat.
La grande interview.
Une émission de grande classe.
Bonjour et bienvenue sur Mine de Son. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Morgane Quinonero, chocolatier à la Bégude, pour en apprendre plus sur ce métier d'artisan chocolatier et son parcours atypique. Bonjour Morgane.
Bonjour à tous.
Je vais maintenant laisser la parole à Jonas qui a une première question à vous poser.
D'où vient l'attrait pour le chocolat ?
L'attrait que j'ai pour le chocolat, ça n'a pas été une évidence dès le départ. Hein. J'ai commencé en pâtisserie déjà, c'est là où j'ai découvert cette matière, la façon de l'utiliser pour la période de Noël par exemple ou Pâques. Donc c'était assez ponctuel, hein. Je travaillais dans une pâtisserie, donc on n'était pas vraiment chocolatier. Et ça m'a vraiment intrigué, je me demandais vraiment comment la personne qui travaillait avec moi arrivait à faire certaines choses. Parce que c'est relativement technique, on va dire, au début, la mise au point du chocolat, pour avoir quelque chose de brillant, voilà, enfin, qui se démoule bien. Donc tout ça m'a vraiment interrogé, et c'est là que j'ai voulu continuer à travailler cette matière un peu mystérieuse au début, avec plus de profondeur, on va dire, faire ça au quotidien, au lieu de le faire ponctuellement.
Quel est votre parcours ?
Donc du coup, mon parcours, j'ai fait un CAP pâtissier en 2 ans, un CAP pâtissier classique à la NAS, en Ardèche. Ensuite, je suis parti à l'Institut des métiers et des techniques à Grenoble, réaliser un CAP chocolatier confiseur Connex, donc en 1 an, puisque j'avais déjà eu un CAP auparavant. Et ensuite, j'ai fait un brevet technique des métiers chocolatier confiseur en 2 ans, toujours à l'Institut des métiers et des techniques.
Vous avez participé à l'émission Le meilleur pâtissier en 2018. Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté ?
Humainement, c'était une belle aventure. J'ai fait ça avec 2 amis à moi. On a rencontré d'autres brigades, des gens de toute la France, même de Belgique. On a tissé des liens qu'on n'aurait pas tissé sans cette émission. Et après, au-delà de l'aspect humain, ça a été quand même une bonne visibilité pour moi. De passer à la télé, que les gens voient aussi un petit peu de quoi j'étais capable face caméra, on va dire. Donc du coup, voilà.
Pourquoi vous appelez-vous Maison Vertueux ?
Maison Vertueux, quand on a commencé à travailler sur ce projet-là, en 2021, je notais beaucoup d'idées de noms, parce que je voulais pas que ça porte mon nom, ni mon prénom. Je voulais vraiment que ce soit quelque chose de plus libre en fait comme choix de marque, hein, parce qu'on cherchait vraiment à créer une marque. Donc du coup j'ai fait beaucoup aussi de recherches et de lectures sur le cercle vertueux. Donc Maison Vertueux, ça vient de tout l'aspect qu'on peut avoir autour d'un cercle vertueux, essayer de créer des synergies entre différentes personnes, que ce soit les producteurs, nous le transformateur et le client. Avec de fortes valeurs éthiques, durables et environnementales, et responsables aussi. C'est par rapport à ça qu'on a choisi Maison Vertueux. Et devant Vertueux, mettre maison, c'était pour essayer d'identifier quelque chose de familial, de rassurant aussi pour les gens qui viennent chez nous. Donc familial dans le sens où déjà je travaille avec ma compagne, on est associés. Et il y a la famille aussi, nos parents qui gravitent autour de tout ça, qui nous ont aidés en amont du projet, mais qui nous aident toujours encore à l'heure actuelle sur le développement de ce projet au quotidien.
Pourquoi avoir choisi de vous installer à la Bégude ?
Alors la Bégude, c'était pas le premier choix, à vrai dire. On nous la pose beaucoup cette question. Qu'est-ce qui fait à la Bégude celui-là ? Ça interpelle beaucoup. En fait, nous, stratégiquement parlant, déjà, on cherchait pas vraiment un endroit, un emplacement clé, parce que stratégiquement parlant, on cherche à développer différents canaux de distribution. Donc c'est pas que le magasin qui nous génère notre CA, notre chiffre d'affaires, c'est les épiciers fins de partout en France. C'est les restaurateurs avec nos produits dérivés du chocolat ou du chocolat pour leur dessert. Donc c'est tous ces canaux de distribution qui font que l'emplacement il est bien, mais c'est pas vraiment ce qu'on recherchait. Et la Bégude, c'est un aspect familial, parce que là où je travaille, là où on va aller tout à l'heure, c'est une bâtisse qui appartenait à mes grands-parents, qui appartient à mon oncle maintenant, du côté de mon papa. Et ils ont fait toute leur carrière de charcutier traiteur dans l'endroit où il y a maintenant la manufacture. Donc il y a l'aspect où géologiquement on n'est pas obligé d'être à un endroit vraiment très intéressant par rapport au point de vente, et aussi l'aspect familial qui a fait que finalement on s'est installé à la Bégude.
En parlant de l'aspect familial, quel est le rôle de votre collaboratrice Leslie dans l'entreprise ?
Alors Leslie, elle a tellement de casquettes que c'est une pièce maîtresse, on va dire, de Maison Vertueux, parce qu'elle gère en fait tout l'aspect du développement commercial de Maison Vertueux, tout l'aspect marketing, les réseaux sociaux, mais aussi l'image de marque au sens général finalement, hein, parce que elle crée les packagings, elle s'occupe de tout l'étiquetage, la création des étiquetages, c'est un gros travail, donc elle sait faire beaucoup de choses. Sans ce profil-là, Maison Vertueux, ça serait pas ce que c'est à l'heure actuelle. C'est une femme exceptionnelle qui gère une grosse partie du développement de Maison Vertueux.
En parlant des réseaux sociaux, quelle est l'importance de la communication et des réseaux sociaux pour vous ?
Alors les réseaux sociaux pour nous c'est très important, parce que on est une petite société avec des budgets publicités qui sont très limités. Les réseaux sociaux c'est vraiment une porte d'entrée, alors qui peut être payante, mais qui est en majeure partie gratuite. On peut diffuser des choses gratuitement sur les réseaux sociaux, et c'est vraiment une fenêtre, une porte d'entrée pour ceux qui nous connaissent pas sur notre savoir-faire, sur notre atelier, nos produits, notre magasin. Donc ça permet de créer du lien, on va dire, avec tous nos clients ou nos futurs clients ou tous ceux qui veulent juste regarder ce qu'on fait au quotidien.
Très bien, nous vous remercions pour ces premières réponses. Et je pense que nos auditeurs aimeraient maintenant en apprendre plus sur le cœur de votre métier. Jonas, je te laisse la parole.
Quelles sont les principales étapes pour fabriquer un chocolat ?
Il y en a plusieurs. Si on parle du début, c'est vraiment la sélection des fèves. On a accès à différentes origines de fèves, différentes variétés de fèves, différents profils aromatiques. Mais tout ça, c'est encore sur papier. Donc on sélectionne un petit peu sur fiche technique ce qui peut nous intéresser. On va chercher des choses avec une réelle traçabilité. 98% de nos fèves sont cultivées en biodynamie, donc il n'y a pas de pesticides ou de choses comme ça. Donc on va chercher vraiment des lots clean, avec une vraie valeur ajoutée financière aussi pour le cacaoculteur. Donc on ne va pas aller acheter des fèves qui sont très peu chères. Ça peut nous interpeller. Quand on nous propose des lots de fèves très peu chères, on sait que le cacaoculteur, lui, il n'a pas été bien rémunéré, donc on va acheter plus cher que le cours du marché. Donc tout ça, les profils aromatiques, la traçabilité, c'est quelque chose qui nous intéresse déjà sur le papier. L'aspect éthique, et après, une fois qu'on a tous ces points sont remplis, on peut commencer à sélectionner des échantillons. Donc ces échantillons, on va les recevoir à la Bégude, on va les tester. Et là, va commencer vraiment les étapes principales de la fabrication. Donc triage, s'il y a besoin, si le lot est pas très propre, il va falloir trier les fèves cassées, collées. Donc tout ça, c'est très important pour la suite des différentes étapes qui vont suivre. Une fois qu'on a un lot clean à torréfier, donc va intervenir la torréfaction, la cuisson de la fève, le concassage, le pré-broyage, tout ce qui est raffinage, donc la micronisation de la masse pour avoir un chocolat fin en bouche, très soyeux. Et après, il va y avoir le conchage. Là, c'est le finish, on va dire. Et après, une fois qu'on a conché, on peut utiliser le chocolat pour faire des tablettes, des bonbons, toutes sortes de choses. Donc il y a entre 6 et 8 étapes essentielles pour faire du chocolat, quoi.
Vous avez parlé de la sélection, mais d'où elles proviennent vos fèves ?
Donc du coup, elles proviennent de différents pays. On travaille avec des fèves qui proviennent du Pérou, de République Dominicaine, de Tanzanie, des Philippines, du Venezuela. On a des cacaos thaïlandais qui viennent d'arriver. Donc ça, c'est des cacaos très rares qui sont produits en petite quantité. C'est des micro-lots. On a des cacaos colombiens, mais après, il y a énormément d'autres pays producteurs en fait qu'on n'a pas encore explorés. Il y a des petits pays comme Costa Rica, Belize qui vont bientôt venir à la Bégude, mais qu'on n'a pas encore travaillé. Mais voilà, déjà on en a pas mal. Tous les pays qui sont à peu près sur la ligne équatoriale ont les caractéristiques, les facteurs pour cultiver du cacao, donc on a encore beaucoup à faire.
Face au scandale du cadmium, comment vous réagissez face à ça? Est-ce que vous avez des solutions que vous avez trouvées ou non?
En fait, il y a plusieurs choses. Donc déjà, ça a intervenu juste avant Noël, cette affaire du cadmium. Donc c'était très, très bien placé pour faire douter un petit peu les gens. Donc le cadmium, c'est une réalité. De toute façon, il y en a dans le cacao, avant que ce soit du chocolat déjà. Donc ça peut être naturellement présent dans les sols, dans certains pays. On va citer le Pérou, par exemple, avec des terres très volcaniques, des choses comme ça. Mais c'est surtout aussi ce qu'il y a des engrais qui sont cadmiumés. Plus on va traiter avec des engrais qui sont cadmiumés, plus on va en mettre dans les sols. Et forcément, ça va interagir après dans les cultures. Donc, nous, déjà, on est en Europe, on a quand même des protections, une protection sanitaire, des normes qui font que les lots qui arrivent en Europe, et donc à la Bégude, mais dans d'autres pays européens, ne dépasse pas le seuil autorisé de cadmium. Donc ça, nous, on a la seule chose qu'on peut faire en tant que torréfacteur, c'est demander des certificats auprès de nos sourceurs de cacao, qui sont faits dans différents labos dans les pays ou en Europe. Le test, il est effectué sur des lots dans les pays, mais aussi il est effectué dans les lots en Europe, pour voir s'il n'y a pas eu des fraudes ou des choses comme ça. Et après, on ne peut pas faire grand-chose de plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y en a dans le cacao. Donc le chocolat, on va manger, pour un fanat de chocolat, quelques grammes de chocolat par jour. Mais aussi, il y en a dans des aliments qu'on mange beaucoup plus au quotidien et en grande quantité. Ça, on n'en a pas parlé au mois de novembre, juste avant les fêtes de Noël. On n'a pas parlé des pâtes avec le blé français. On n'a pas parlé des épinards, des pommes de terre, qu'on mange peut-être beaucoup plus au fil des ans, sur une année pour un être humain. Donc nous, on essaye de faire en sorte d'être le plus transparent possible. Mais c'est, faut faire attention parce que ce n'est pas une réalité, la quantité de cadmium qu'il y a. On dit qu'il y en a beaucoup plus dans des cacaos péruviens. Mais en fait, si on regarde, nous, on a un cacao de Tanzanie. Il est un peu plus élevé que notre cacao péruvien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Tanzanie, à certains moments, ils ont beaucoup plus utilisé des engrais cadmiumés que les Péruviens avec leur sol volcanique et le cadmium naturellement présent dans ces sols-là. Donc il faut faire un petit peu la part des choses et se dire, en fait, il y a du bon et du moins bon de partout. On n'essaye pas de rendre malade les gens. On a accès à des matières qui sont autorisées sur le territoire européen. On fait très attention à ça, on ne va pas sur des lots qui ne sont pas bons. En général, les lots qui sont trop chargés en cadmium, ils partent au Moyen-Orient ou en Asie, où on regarde beaucoup moins la santé du consommateur, et où c'est beaucoup moins encadré. Voilà. Nous, c'est, à notre échelle, c'est ce qu'on essaye de faire. Mais c'est une réalité, il y a du cadmium dans le cacao, donc il y en a dans le chocolat. Après, est-ce que vous mangez plus de pâtes avec du blé français ou plus de cacao dans une semaine? Donc faut faire un petit peu la part des choses et voilà.
Quel autre produit utilisez-vous pour fabriquer votre chocolat?
Alors après les fèves de cacao, en grande partie on va utiliser des fruits secs. Donc nous en fait on fait une sélection rigoureuse, ultra rigoureuse, de matières premières uniquement françaises, à part les fèves de cacao. Les fruits secs, en premier lieu, les noisettes, les graines de courge, les noix de pécan, les amandes, les cacahuètes, tout ça, c'est des fruits secs français qui sont cultivés par nos partenaires en France. Ça peut être en Drôme provençal, comme dans le Lot-et-Garonne, mais aussi en Aquitaine. Ensuite, on va utiliser du sucre, mais ce sucre, il est sélectionné à partir de betteraves sucrières françaises, donc c'est une fabrication très localisée Grand Est et Hauts-de-France. Cacao, fruits secs et sucre, c'est en grande partie ce qu'on va utiliser. Mais après, on a aussi tout ce qui est crème, beurre, lait, qui vient de la laiterie locale, la laiterie Carrier, à Vals-les-Bains, pour nos caramels ou nos ganaches. Voilà, ça c'est en grande partie c'est ce qu'on utilise en matière première. Non.
En quoi la torréfaction influe-t-elle sur la qualité du chocolat?
Alors, je ne sais pas si ça influe sur la qualité du chocolat, mais en tout cas, ça va nous permettre de venir sublimer, en toute humilité, hein, sublimer déjà tout l'aspect aromatique et profondeur qu'on peut avoir dans les fèves qu'on a déjà sélectionnées. Parce que ce qu'on sélectionne, c'est du cacao de spécialité. Donc, c'est déjà très, très peu amer quand ça arrive à la Bégude, parce que ça a été fermenté, séché par le cacaoculteur. Et c'est déjà très aromatique. Donc nous, on torréfie à basse température. C'est ça la particularité d'un torréfacteur comme Maison Vertueux. On va torréfier entre 105 et 120 degrés pour certains lots, mais c'est très rare, c'est plutôt entre 105 et 115 degrés. Une torréfaction, ça va être à partir de 150 voire 180 degrés pour les cacaos industriels. Donc on fait des choses très doucement, à basse température, pour conserver vraiment tout le profil de chaque fève et garder la singularité entre chaque lot de fève et chaque provenance. Donc la torréfaction, ça n'a pas influé sur la qualité, mais ça a influé vraiment sur la saveur du chocolat quand on va le déguster.
Combien de temps est nécessaire pour fabriquer une tablette de chocolat ?
Alors, pour arriver jusqu'à la tablette, si on part de la fève, j'y vois plus clair si chronologiquement j'explique comme ça. Le lundi, par exemple, je vais torréfier les fèves. Je vais faire que de la torréfaction toute la journée. Je vais enchaîner les torréfactions. Et je vais laisser refroidir ces fèves jusqu'au lendemain à température ambiante. Donc, je ne vais pas les mettre en chambre froide ou ailleurs. Ça va refroidir tout doucement, naturellement, jusqu'au lendemain. Donc le mardi, je vais pouvoir concasser. Je vais concasser toutes les fèves que j'ai torréfiées la veille. Donc le concassage, ça va être vraiment l'extraction de la peau qui est très épaisse, hein, la peau de la fève. Hein, c'est 25% du poids de la fève, donc c'est une peau très épaisse. C'est pas une peau de noisette, par exemple, qui n'est pas très bonne à la consommation et qui n'a pas d'utilité dans le chocolat. Donc nous, on en extrait la totalité pratiquement, contrairement aux industriels. Donc le lundi, torréfaction, le mardi, concassage. Le mercredi, on va faire toute la liqueur de cacao et l'ajout de différents ingrédients dans les recettes. Le chocolat noir, on va rajouter le sucre, mais dans le chocolat au lait, il y aura forcément la poudre de lait, le beurre de cacao, enfin, voilà, tout ça. Donc ça veut dire que le mercredi, déjà, on peut faire partir en conchage la masse de chocolat, qui est presque du chocolat. Et normalement, entre 12 et 36 heures plus tard, le conchage va être terminé. Donc ça, c'est vraiment propre à nous. Hein. C'est pas une généralité, c'est vraiment une autre façon de fabriquer le chocolat. Ça peut être variable chez d'autres artisans, mais ça sera variable chez les industriels aussi. Donc ça veut dire qu'en du lundi au jeudi, on peut arriver à une tablette. Sans forcer les choses, parce qu'on prend vraiment le temps de faire les choses. On pourrait aller beaucoup plus vite, certainement. C'est pas le but du jeu chez nous. Donc voilà, on va dire en quelques jours, on peut arriver à une tablette. Mais des fois, la tablette, elle va sortir beaucoup plus tard, parce qu'on va conserver aussi des blocs de chocolat figés en chambre froide, qu'on va utiliser plus tard. Donc là, il va s'opérer une petite maturation du chocolat à température aux alentours de 10 degrés avant de le retravailler. Mais on peut le retravailler directement en sortie de conchage.
Et bah, très bien. Maintenant que nous avons parlé des côtés techniques, nous aimerions aborder la partie la plus plaisante, le côté dégustatif du chocolat.
Alors, j'ai emmené donc un cacao colombien. Et c'est un peu en avant-première parce que celui-ci, il n'est même pas encore en magasin. C'est un lot très rare qu'on a mis beaucoup de temps à pouvoir... On a mis beaucoup de temps à pouvoir accéder, parce que très peu de chocolatiers en Europe peuvent en avoir. C'est un cacao où il y a 50% de fèves criollo, donc c'est un cacao qui est très clair. C'est des fèves blanches à la base, donc même après fermentation, elles sont plutôt sur le marron clair, ce qui nous emmène à un chocolat très clair, avec l'impression que c'est un chocolat au lait, presque. Pourtant, c'est un chocolat noir. Il y a seulement deux ingrédients à l'intérieur, je vous laisse chacun prendre un carreau. Il y a que deux ingrédients, donc nous le chocolat noir en fait on met pas d'arôme vanille, on met pas de lécithine, qu'elle soit de soja ou de tournesol, et on met pas de beurre de cacao, de rajout. Donc ça nous emmène à un chocolat qui est une réelle longueur en bouche, puisqu'on va pas rajouter ces facilitateurs dans les recettes, donc beurre de cacao, de rajout, lécithine et arôme vanille. Il y a plus de pâte de cacao, c'est ce qui va être intéressant quand on mange un carreau de chocolat finalement. Donc ce chocolat, c'est très subjectif, hein, parce que la dégustation, moi des fois je déguste avec des amis restaurateurs et on va pas trouver les mêmes choses, pourtant on a tous quelques sens quand même, mais les nuances sont pas les mêmes en fonction des palais, et ça c'est vraiment en fonction de la mémoire, de ce qu'on a pu déguster peut-être plus jeune, ou au fil des ans, toutes les saveurs qu'on a pu emmagasiner en mémoire. Donc ce cacao, n'hésitez pas à le goûter, hein. C'est un chocolat noir qui est dépourvu d'amertume. Ça vient de la génétique du cacao qu'on utilise, donc 50% de fèves criollo. C'est des fèves qui sont très fruitées. Lui, il va nous emmener en plus, si on enlève un petit peu toutes ces couches, des sensations un peu de fruits exotiques, de caramel. Donc il y a 70% de fèves de cacao. Donc c'est un très beau pourcentage, hein, ça va très très bien déjà. On peut même parler voilà, de quelque chose de très floral en fin de bouche. Et ça, on arrive à le déceler quand l'amertume est plus présente. Très peu présente, parce que quand l'amertume est présente, elle va lisser tout ça. C'est ce qu'on va retrouver dans les cacaos industriels, homogénéiser au fil des ans le goût du chocolat. Je sais pas, il y a 10 ans, manger une tablette carte d'or, enfin, ou côte d'or, je sais pas ce que c'est comme marque, elle aura toujours le même goût qu'en 2026, parce que c'est ce que les industriels ils cherchent à faire, et nous, on essaye de mettre en avant que le chocolat, c'est vivant parce que ça vient de la nature, et qu'au fil des ans, les années sont pas les mêmes, l'humidité n'est pas la même, la pluviométrie n'est pas la même, donc forcément le chocolat, lui, va bouger au fil des ans. Mais surtout, on cherche à garder ses subtilités. C'est tout l'intérêt d'un torréfacteur de cacao comme Maison Vertueux, mais d'autres aussi en France, qui font des choses très très belles, en se débarrassant de cette amertume, en gardant des notes cacaotées qui sont intenses, qui sont douces, mais qui sont différentes en fonction des origines.
Moi, j'avais déjà eu l'occasion de goûter à votre chocolat. Et ouais, ce que je trouve fascinant, c'est qu'il reste vraiment longtemps en bouche, le goût. Et des fois, avec d'autres chocolats, au fil du temps, quand ça reste en bouche, ça devient amer et pas agréable. Alors que avec ce chocolat, vraiment, à chaque fois, je passe un bon moment, quoi.
Ouais, mais c'est ce qu'on essaye de mettre en œuvre, quoi. C'est vraiment la longueur en bouche, mais ça va passer par quelque chose de simple, c'est simplifier les recettes. Moins on en met, mieux on se porte, quoi, j'ai envie de se dire. Et donc, la longueur en bouche, c'est la simplification des recettes, et le fait que ce soit peu amer, peu astringent en bouche, même sur des forts pourcentages, parce que l'astringence, elle intervient aussi quand on a 80, 85, 90, 99% de cacao, on commence à perdre un peu la salive, c'est pas au goût de tout le monde. Donc même sur des forts pourcentages, quand on a un cacao de spécialité, un cacao fin, on peut avoir quelque chose de très appréciable et de très aromatique en bouche.
Quels sont les critères pour reconnaître un bon chocolat ?
Moi, à mon avis, déjà, il y a plusieurs choses qu'on peut tester, mais ça va être déjà on peut le sentir. Est-ce qu'il sent bon ce cacao ? Est-ce qu'il sent vraiment le chocolat ? Ou est-ce qu'il sent. Il n'y a pas d'odeur spécifique. Après, ça va être la mise en bouche, on va dire. Si c'est quelque chose de qualitatif, il sera toujours cassant, plutôt brillant, normalement. Donc, ça peut interpeller sur la qualité. Après, la réelle qualité, ça va être la composition. Il faut regarder la composition, ça c'est très important. Un cacao, par exemple une tablette de chocolat où il y a de la pâte de cacao, du beurre de cacao, du cacao en poudre, pour additionner l'ensemble de ces matières cacaotées et avoir un beau pourcentage qui vous fait croire que c'est qualitatif, ça ne l'est pas. Puisqu'il y a des matières plus nobles et moins nobles, donc l'industriel il va un peu mélanger tout ça pour l'aspect économique, le coût de revient. Donc bien regarder, plus c'est simple, plus c'est bon finalement, parce que s'il n'y a que de la pâte de cacao et du sucre, vous en avez vraiment pour votre argent et votre kiff quand vous allez déguster. Donc je pense que ça passe par là pour déjà être sûr que le cacao soit de qualité. C'est une liste d'ingrédients simples, une réelle traçabilité, une lisibilité sur potentiellement la provenance, les fournisseurs, voilà.
On parle d'accord mais vin, existe-t-il la même chose avec le chocolat ?
Alors bien sûr oui, le chocolat ça va se marier avec plein de choses. Ça dépend à quel moment, quel est le but et à quel moment dans un repas peut-être on va le glisser. Nous il y en a beaucoup qui viennent chercher du chocolat pour le déguster avec du café par exemple, ça c'est connu. Mais ça peut se marier avec plein d'autres choses, avec des fromages, avec du vin, d'autres boissons à base de vin sans alcool, par exemple. Donc ça va très très bien ensemble. Surtout le chocolat noir. Après le chocolat, on fait aussi un chocolat au lait, très peu sucré, mais qui ira très bien avec les agrumes, par exemple. Donc ça, il y a forcément des synergies à mettre en place au cours d'un repas ou tout simplement au quotidien à la maison. On peut toujours agrémenter le chocolat avec d'autres choses. Voilà.
Pensez-vous que vos sens sont toujours les mêmes qu'à vos débuts ?
Je pense que ça a forcément évolué parce que, comme je disais tout à l'heure, à force de goûter des choses, que ce soit en rapport avec le cacao ou toutes sortes d'aromates, d'épices, ça fait que la mémoire, on en retient beaucoup. Ça a forcément évolué au fil des ans et j'espère que ça évoluera encore avant d'être totalement sur le déclin. C'est sûr que mes sens ont évolué, mais aussi mes goûts ont évolué. Donc forcément, c'est un peu lié, quoi, finalement. Voilà.
Eh bien, très bien. Pour conclure, nous vous remercions. Et chers auditeurs, n'hésitez pas à aller découvrir Maison Vertueux à la Bégude.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci. Pardon. Merci.
C'était
La Voix des Jeunes.
Un programme radiophonique réalisé en partenariat avec les établissements scolaires d'Aubenas et de sa région.
Cette émission a été réalisée par les Bac Pro Cuisine et Services de la Cité scolaire de l'Argentière. Elle est issue d'ateliers menés par notre radio au lycée hôtelier dans le cadre d'un projet d'éducation aux médias et à l'information. Notre équipe est intervenue auprès des élèves qui animent Mine de son, la web radio de l'établissement, afin de les accompagner dans la préparation, la conduite et la réalisation de l'interview. Le projet est soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes.